Au les plaisirs des Utopies, votre émission Radio Campus relative aux amours pluriels, réalisée et présentée par Philippe du site polyamour.be. C'est ici que la magie des amours multiples nourrit son imaginaire, c'est ici qu'elle s'offre aux rencontres métissées. À l'ombre du jour, le micro entre les dents, le cœur nomade, je parcours les berges à la recherche des polyglottes de l'amour. Thomas, voilà. On vient de voir le film La Grande Amoureuse et j'ai vu que tu as bien regardé attentivement. Voilà. Alors, deux, trois impressions que tu as eues peut-être comme ça, un peu à chaud.
Moi, j'ai acheté le dernier livre de François Saint-Père. C'est quelque chose que je dois lire, mais je connaissais pas encore tout le discours. Donc c'est un peu la première fois que je l'ai entendu en interview quelques fois. C'est la première fois que je prends le temps un petit peu de découvrir plus le personnage et le discours. Et j'en ressors avec l'impression d'être à peu près d'accord avec la totalité de ce qu'il a dit. Finalement, je retrouve ce que je pense et ce que je peux penser des relations amoureuses dans ce que François Saint-Père raconte. Ouais, vraiment. Donc finalement, il n'y a rien qui... Quand on est d'accord avec quelque chose, en général, il n'y a rien qui détonne.
Et donc tu as lu son livre et aujourd'hui, bon, y a des images, il y a des sons, il y a des personnages en plus qu'on a pu un peu observer. Et au niveau de son organisation, de sa vie, est-ce que tu trouves qu'il y a des moments de magie? Est-ce que tu partages un petit peu cette utopie? Et en même temps, tu as aussi ton expérience par rapport à ça, que tu te fais toi sur une certaine ouverture.
Ouais. Est-ce qu'il y a des images qui me séduisent Moi, j'adhère à ce mode de vie. Il y a quand même, dans la vie de Françoise, il y a un homme depuis très longtemps. Moi, aujourd'hui, j'ai 34 ans. Je n'ai pas déjà cette construction de couple. Et le couple qui se construit et qui s'ouvre, finalement, moi, je ne peux pas construire le même type de relation parce que je n'ai pas cette base-là. Je n'ai pas d'enfant. Donc déjà, il y a une différence qui est un petit peu importante et qui est parfois aussi un frein à la rencontre. Parce qu'il y a dans les femmes de mon âge que je peux rencontrer qui sont célibataires, il y a d'autres attentes vis-à-vis du couple. Il y a des attentes vis-à-vis du couple, alors que moi je n'ai pas spécialement d'attentes vis-à-vis du couple. C'est ça le truc.
C'est pas mal déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des attentes.
Ouais, mais c'est les femmes que je rencontre, effectivement, projettent énormément et du coup, je. Moi, mon approche, c'est d'essayer de faire le moins de mal possible, en fait. J'ai l'impression qu'en ayant des idées qui sont un petit peu à côté de la norme, on est capable de perturber. Enfin, il y a des femmes qui sont tombées amoureuses, mais qui ne supportaient pas l'idée, la notion d'ouverture et ces trucs-là. Et au final, on se rend compte que, à être honnête le plus rapidement possible, c'est là qu'on fait le moins de mal. Mais j'ai quand même fait mal. Bon. Ça arrive, mais du coup, ça devient un petit peu l'objectif, quoi, de faire d'évoluer le plus possible en essayant d'être ouvert sur les relations, d'avoir des relations les plus libres possibles. Mais comme il y a relativement peu de gens qui partagent, essayer aussi de ne pas forcément nuire et d'être libre à tout prix.
Est-ce que ça t'est arrivé donc de rencontrer une personne qui l'a compris, peut-être pas tout de suite, ou qui a été dans une envie d'accepter et de comprendre ce que tu vivais, donc des amours pluriels, ou en tout cas des ouvertures libertines, ou peut-être que c'est l'occasion de nuancer peut-être aussi un peu
J'ai rencontré plusieurs personnes avec qui j'ai eu des relations qui ont duré entre un mois et un an et demi. Et qui, au début de la relation, quand j'ai un peu exposé moi la manière dont je voyais une relation qu'on dira amoureuse, même si c'est pas forcément un terme qui est très approprié, je vais pas forcément mettre une catégorie comme ça. Au début, les personnes que j'ai rencontrées étaient un petit peu séduites et ont fait cette exploration. Donc j'ai plusieurs personnes qui ont commencé à papillonner, à explorer un petit peu et une d'entre elles s'est arrêtée à la première relation en s'apercevant que non, c'était pas quelque chose qui rentrait dans son mode de fonctionnement, qu'elle avait vraiment énormément de mal à être avec quelqu'un en sachant, enfin, même à coucher avec quelqu'un alors qu'elle était avec, qu'elle se pensait avec moi. Une autre a un petit peu suivi tout au long de notre relation, mais de manière pas forcément très convaincue. plus dans une approche expérimentale. Elle aussi sortait d'une relation d'une quinzaine d'années, mariage, deux enfants, qui s'était terminée un petit peu, pas forcément mal, mais donc, comme toutes les ruptures au bout de 15 ans, c'est forcément un petit peu violent, quoi, et qui avait besoin du coup de s'ouvrir et d'essayer d'expérimenter, qui a essayé d'expérimenter pour s'apercevoir que c'était pas du tout son mode de relation. D'ailleurs, notre relation s'est arrêtée, enfin, en tout cas physique, s'est arrêtée au moment où elle a rencontré quelqu'un et du coup, elle est redevenue exclusive avec quelqu'un d'autre.
Et toi, donc, tu es dans des relations non exclusives. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est apparu à un moment donné, une prise de conscience, ou est-ce que tu as l'impression que c'est dans ta nature ?
Non, j'ai pas forcément l'impression que ce soit dans ma nature. C'est mon évolution, elle est. Finalement, je pense que c'est. J'ai l'impression aujourd'hui d'être arrivé à une certaine maturité sur les relations, sur l'idée des relations, et que cette maturité, elle me pousse effectivement à avoir l'impression qu'on ne peut pas rester enfermé dans une relation. Moi, je suis très sensible au parallèle avec les enfants que François Saint-Père fait, en disant mais quand on a plusieurs enfants, on aime tous ses enfants. Je le trouve très vrai, et je le trouve très proche de la vérité absolue. Bon, après, je pense que c'est pas la vérité de tout le monde, mais moi je la fais mienne. Et en fait, non, moi, le glissement vers l'ouverture, je pense que déjà j'ai commencé relativement tard à avoir des relations sentimentales et sexuelles. Quelle est aujourd'hui la position privilégiée que peut avoir le sexe, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on reste enfermé dans une relation qui est purement sexuelle? Donc, au-delà du travail sur moi qui est un travail intellectuel, après il a fallu passer à la pratique et donc expérimenter. Et finalement, dans l'expérimentation, je me suis rendu compte que divers aspects de ma sexualité, en particulier des côtés un petit peu voyeurs que je peux avoir, sont des choses qui finalement m'ont fait trouver mon compte dans des relations à trois. À force de vivre de cette manière-là, ça s'est plus ou moins imposé à moi. Finalement, c'est la pratique des relations plurielles qui m'a amené à réaliser qu'il n'y avait pas de prédominance du sentiment amoureux, enfin de supériorité du sentiment amoureux sur d'autres sentiments qu'on pouvait ressentir dans les relations. Et finalement, c'est relativement récent l'aboutissement de ces réflexions et des évolutions des relations que je peux avoir avec les personnes que j'ai rencontrées dans ces deux ans, qu'effectivement, on peut développer des sentiments amoureux sans avoir besoin d'enfermer, sans avoir besoin de vivre avec, sans même avoir besoin d'avoir une envie de construction. Pour moi, c'était ça qui faisait des couples solides, c'était des envies de vie, des projets de vie qui étaient, sinon communs, au moins compatibles. Tout le reste, on avait beau être très amoureux, on pouvait ne pas être capable d'avoir une vie commune, on pouvait avoir une vie commune, on n'avait pas forcément les mêmes envies dans le futur, etc. Donc c'était ce que j'avais ressorti de mon expérience de couple. Je pense que tout couple qui a un petit peu duré sait qu'il y a des fois où on est moins amoureux que d'autres, qu'il y a des variations en fonction des circonstances, du quotidien, etc., etc. Finalement, le couple, c'est pas forcément nécessaire pour vivre, et on peut s'épanouir en ayant des choses qui sont très, très ouvertes et sans chercher de cadre, en fait, de cadre enfermant.
Donc, deux petites questions en une. On reproche parfois aux polyamoureux ou aux gens qui sont en dehors de l'exclusivité d'être dans un peu une sorte de manque de maturité. Est-ce que tu as déjà entendu ce genre de réflexion? Et la deuxième question, si tu te projettes plus loin et peut-être dans une vie où tu pourrais être père, est-ce que ça changerait la donne? Est-ce que tu ferais d'autres choix ou voilà?
Quand tu dis si je pourrais être père, c'est le futur ou c'est si jamais j'avais été père?
Ah oui, donc je sais pas.
Moi, je ne souhaite pas spécialement avoir des enfants. Après, je ne sais pas ce que la vie me réserve. Je ne ferme pas de porte. Je sais que je peux rencontrer quelqu'un qui me donnera envie d'enfant ou dont l'envie d'enfant s'imposera à moi sans que j'y sois fondamentalement opposé. Pour l'instant, je conçois très bien de passer ma vie sans enfant. Voilà, c'est la phrase la plus raisonnable à laquelle j'arrive. J'ai pas envie d'enfant, mais ça peut arriver. L'envie peut arriver. Donc, je ne me pose pas forcément la question par rapport aux enfants. Et là encore, par rapport à ta question sur la maturité, je pense que, au contraire, j'ai l'impression, en gagnant en maturité, de me rapprocher du polyamour et parce qu'on mûrit qu'on est capable d'accepter l'ouverture à l'autre. Et d'être... C'est parce qu'on se connaît de mieux en mieux, parce qu'on sait qui on est, qui finalement est la vraie maturité, qu'on est capable de se dire « oui, mais je n'ai pas besoin de posséder l'autre pour vivre des relations épanouissantes ». Je pense que...
Donc ça renvoie un peu à l'amour de soi aussi, qui quelque part doit peut-être être un petit peu assumé ou découvert, ou comment je pourrais dire ça. Est-ce que ça n'est pas un peu lié à l'amour de soi aussi, la non-jalousie par exemple?
Pas forcément, l'amour de soi, l'amour, l'assurance, ou c'est clair qu'il faut être... Pour moi, la principale leçon du polyamour et de tout ce qui est autour, c'est vraiment que finalement, les polyamoureux sont des gens qui, je pense, sont très bien avec eux-mêmes et du coup sont capables d'être bien avec beaucoup de gens. Mais le présupposé, c'est d'être bien avec soi, de ne pas chercher quelqu'un d'autre pour s'appuyer, une personne dont on aurait besoin pour être un pilier, un soutien. Un confident, finalement. Moi, je pense que les polyamoureux sont des gens qui sont bien avec eux-mêmes et qui seraient capables d'être célibataires, enfin, qui sont les mieux armés pour traverser le célibat, finalement.
Est-ce que tu observes autour de toi des ouvertures quand tu parles à d'autres gens, de ta façon de fonctionner? Est-ce que tu as l'impression que la société évolue doucement vers des ouvertures et comprend un peu ce que tu vis?
Mon cercle d'amis proches, pour l'instant, m'ont vu surtout comme un libertin. Et on a aussi vu, ça fait 2 ans et demi que je suis célibataire, enfin séparé, et on a surtout perçu en tout cas ces 2 premières années comme étant des années où je décompensais, où j'étais vraiment dans un mode exploratoire post-relationnel. Donc je pense que, et puis moi aussi j'étais pas encore aussi, on va dire, affirmé dans mes convictions, et j'avais pas encore compris exactement où j'en étais. Finalement ça fait à peu près 6 mois que je commence à peu près savoir que oui, je pense que je m'inscris dans la durée, dans quelque chose qui va être ouvert, etc., etc. Donc je pense la plupart de mes amis n'ont pas encore perçu, n'ont pas encore vu à quel point ça pouvait être un engagement. Je commence un peu à en parler, et des gens qui me connaissent depuis 20 ans, j'en discutais hier soir avec un de mes amis, dont je disais, nana, le polyamour, plusieurs relations, qui a fini par me dire, mais... Moi, c'est vrai que je conçois plus facilement le polyamour que, par exemple, le sexe de groupe. Bon, le parallèle n'est pas forcément... Ouais, lui, en tout cas, lui aurait plus tendance... s'estime plus capable de s'investir dans des relations polyamoureuses que dans des relations polysexuelles, on va dire. Enfin, partenaires multiples sexuels. Et ce à quoi j'ai répondu, moi, je pense qu'il est exceptionnel parce que je pense que le progrès moral, entre guillemets, aujourd'hui autorise beaucoup plus facilement une ouverture de la sexualité. Il y a de plus en plus de gens dans les clubs échangistes, dans les forums, dans les ouvertures comme ça. Mais par contre, commencer à casser finalement la structure unique qui est le couple, qui est une structure sociale qui jusqu'ici était une structure majeure, pour moi c'est très transgressif, et au contraire c'est des choses qui vont avoir énormément de mal à progresser, parce que on est très très ancré et on est dans des choses qui sont extrêmement anciennes. Je termine en ce moment la lecture de la théorie du corps amoureux de Michel Onfray, qui lui fait dater cette histoire aux conceptions qui sont les conceptions socratiques du couple, l'être unique, séparé, et qui du coup rechercherait sa moitié. Donc on est dans des conceptions qui ont maintenant 2500 ans à peu près. Oui, voilà, ouais, sur le texte du Banquet. Donc on est dans des conceptions de couple qui ne sont même pas chrétiennes, en fait. L'intérêt aussi, c'est de voir que avant même l'apparition de la religion chrétienne, il y avait des conceptions d'unicité, de recherche d'unicité. Et je pense vraiment, sincèrement, que casser le tabou du couple et arriver... Enfin, tabou, non, ça c'est n'importe quoi comme phrase. casser l'idéal du couple et dire qu'on peut s'épanouir hors du couple, pour moi, c'est la vraie transgression du polyamour, et c'est la chose qui aura le plus de mal à passer.
Et en même temps, un côté excitant, puisque c'est l'aventure, et que découvrir plusieurs êtres, c'est prendre le risque d'être émerveillé, peut-être aussi.
Oui, enfin, Moi, je pense que j'aime les gens, j'aime rencontrer des gens dans leur diversité, dans leur variance de discours. Enfin, c'est voilà, et j'aime la rencontre à la fois dans la discussion, la rencontre physique est aussi quelque chose. Voilà, il y a des peaux, il y a des réactions, personne n'a la même manière de faire l'amour. Et c'est vrai que c'est pas enfin. La diversité, c'est aussi quelque chose qui aide à se construire, au sens où, sans parler de comparaison, se retrouver face à quelqu'un qui ne pense pas comme soi est quelque chose qui permet nécessairement de faire évoluer sa pensée. Et de la même pour les relations physiques, se retrouver face à des gens qui ont des réactions différentes permet aussi de mieux se connaître et aussi d'être plus capable de faire plaisir et de rentrer dans des relations où on... Finalement, on ne surinvestit pas le sexe, on ne surinvestit pas la relation, mais à force de connaître les gens, on est capable de savoir ce qu'on cherche nous et ce que cherchent les gens. Non, chacun cherche des choses différentes, mais au moins un panel suffisant pour avoir ses marques dans la vie, dans les rencontres des gens et être à l'aise. Enfin, finalement, on en retombe toujours sur cette idée que... on est à l'aise avec les gens à partir du moment où on est à l'aise avec soi-même.
Et donc, il y a aussi souvent un petit peu le réflexe de l'homme qui va se dire, tiens, le polyamour, oui, ce serait pas mal pour moi pour avoir plusieurs femmes, mais dans le fond, permettre à ma compagne d'avoir plusieurs hommes, ça me stresserait de trop. Mais toi, tu as déjà dépassé cette frontière. Enfin, cette frontière, tu es dans l'acceptation, évidemment, que tu es dans quelque chose d'équitable, alors, si tu es là-dedans.
Oui. Je pense que c'est ce que je n'avais pas compris.
Donc, si tu as un message à faire aux hommes, ce serait quoi, par exemple ?
Si j'ai un message à donner aux hommes, à ceux qui hésitent, ayez confiance en vous. C'est pas parce que votre femme va voir ailleurs ou fait des rencontres qu'elle va forcément partir. Je sais pas si on peut traiter la possessivité. Mais déjà, je pense qu'effectivement, quelqu'un qui est possessif et jaloux, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Il n'a pas confiance en lui. Et le conseil que j'ai donné, c'est qu'il y a un moment, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise et il faut accepter le fait qu'il existe des gens qui sont plus intelligents que nous. Il existe des gens qui sont meilleurs ou lits que nous. Il existe des gens qui sont plus beaux, plus belles, plus sportifs, peut-être plus intéressants, etc. Mais d'un autre côté, la personne avec qui on vit, elle a en général choisi le bon mix entre toutes ces caractéristiques qu'elle cherche et dans ce qu'elle cherche chez les hommes. Alors forcément, tout comme nous, on fait des concessions sur certains points, elle aussi a fait des concessions pour arriver à la personne qui lui convient le mieux. Quoi. Et qu'il faut être conscient que cet accord-là, il ne se casse pas parce qu'elle a trouvé quelqu'un qui, pendant un mois, va lui faire l'amour comme personne ne lui a jamais fait. Ou quelqu'un qui, pendant des années, va, toutes les trois semaines, lui raconter des histoires qu'on n'est pas capable de lui raconter. C'est pas grave, parce que de toute façon, au final, elle habite... Il y a une communauté de vie, ou pas, mais il y a une préférence, il y a quelque chose qui est marqué, et c'est pas quelque chose qui se dissout dans les autres relations. Si la relation qu'on avait se dissolvait dans les autres relations, je pense que des choses comme le travail des femmes auraient déjà détruit la moitié des couples. Il y a plein d'autres préoccupations en dehors du couple et du côté où on se regarde le nombril, on se regarde l'un l'autre, on regarde dans son même direction.
C'est parce que tu es un homme que ça m'intéresse aussi, même si j'ai interviewé plusieurs hommes aussi, mais je trouve que y a encore des vestiges machistes qui existent et ça fait du bien aussi. De rencontrer quelqu'un comme toi qui peut-être propose autre chose, quoi.
C'est vrai que le machisme, c'est quelque chose qui n'appartient pas à mon vocabulaire. Je pense que la liberté de la personne qui est en face de nous est aussi importante que sa propre liberté. Donc, c'est là que le machisme rentre pas du tout dans la fenêtre, parce que j'ai pas envie de posséder. J'ai envie de passer des bons moments avec quelqu'un. Et même si pour moi, le machisme, c'est l'expression du sentiment d'insécurité. Dans le machisme, il y a une reconnaissance du pouvoir de la séduction de la femme. C'est-à-dire que finalement, je trouve que le macho a peur de, est quelqu'un qui a peur des femmes, ou en tout cas peur de leur pouvoir de séduction. Et qui n'arrive, parce que lui, force peut-être, n'est pas capable de maîtriser l'effet qu'elle peut avoir, et donc du coup, recraint peut-être l'effet que peut avoir ce pouvoir de séduction sur d'autres hommes. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Donc ouais, même finalement, sans parler de soi, c'est juste reconnaître le pouvoir supérieur de séduction de la femme, et du coup, tout faire pour ne... pour maîtriser ce pouvoir et essayer de l'enfermer le plus possible. Donc non, moi je suis pas étant donné que ce que je cherche à chaque fois, c'est apporter du plaisir, que ce soit du plaisir intellectuel. Je discute énormément avec chacune de mes rencontres, je passe beaucoup de temps à discuter, c'est quelque chose que j'aime, que ce soit le plaisir physique évidemment. Sur le plaisir un peu plus on va dire affectif, c'est une de mes découvertes récentes. Enfin, ça fait 6 mois, 1 an que j'évolue dans quelque chose où je me permets d'être un petit peu plus affectif, après avoir réalisé que en fait on ne pouvait pas passer. Il y a une personne avec qui on s'est vu 2 fois par semaine pendant à peu près 8-9 mois, et c'est quelqu'un pour qui j'ai développé des sentiments, forcément, avec en parallèle une volonté farouche de ne pas me remettre en couple. C'était très tôt après ma rupture, pour moi c'était pas du tout le moment, et finalement j'ai appris à laisser se développer le sentiment pour mieux le laisser passer, puisque finalement malgré ce développement parallèle du sentiment, j'avais la certitude qu'on n'était pas fait pour vivre quelque chose ensemble. Donc finalement, c'est aussi plus facile de se laisser aller à monter un sentiment affectif fort quand on sait qu'on n'est pas destiné à vivre, que ceci n'aura pas d'influence sur sa propre liberté. Finalement, j'ai eu l'impression de m'autoriser à aimer parce que je savais que c'était pas enfermant.
Donc c'est une découverte.
Ouais, ça a été une découverte. Et après avoir vécu comme ça une ou deux petites passions, une petite de l'amourette, enfin des choses comme ça qui finalement étaient un peu passionnelles pendant 15 jours, je ne pense qu'à une seule personne, j'ai envie d'une seule personne, c'est relativement fort, quoi. Puis ça peut redescendre après, mais plutôt ça se transforme en quelque chose qui est un petit peu plus posé, mais qui reste avec énormément de tendresse et d'affection. Et finalement, au bout de 2-3 relations comme ça qui ont dérivé d'un chose plus tendre avec de l'affectif, je me suis dit mais il y a un problème dans l'approche purement libertine et dans l'approche qui est qui consiste à se dire que couchons, il en restera toujours quelque chose. Non, en fait, non, il y a peut-être d'autres choses à côté de la coucherie. En voulant absolument dire ok, je couche, on couche ensemble, mais discutons. Donc, qui aussi arrête toutes les relations d'un soir, toutes les relations. Et ce qui fait prendre des risques finalement à la personne qui est en face de soi, parce que je pense qu'il y a peu de gens qui sont préparés à avoir des relations physiques avec des gens avec qui elles discutent et qu'il y a un sentiment amoureux qui se développe. Et moi j'ai mis un petit temps avant de savoir que c'était totalement vrai, que finalement quand on fait l'amour et qu'on discute, on développe un sentiment, et qu'il faut juste rendre compte que ce sentiment n'est pas un engagement à vie, et que finalement on peut très bien développer un sentiment soit fugace, soit très profond et très long, mais qui ne force pas à la communauté de vie et au projet commun.
Donc il y a comme un équilibre entre le corps et l'esprit à ce moment-là.
Oui. Je pense qu'il faut quoi qu'il arrive, tu peux pas. Enfin, j'estime qu'on peut pas être serein si on fait pas assez l'amour, parce qu'il y a un côté. Enfin, c'est. Je pense que c'est absolument indispensable l'amour physique. Pour l'équilibre personnel, moi je sais qu'à partir du moment où je passe 2-3 semaines ça m'arrive assez fréquemment en ce moment, parce que je viens d'arriver à Paris, j'ai plus mon tissu relationnel, c'est un petit peu plus compliqué. Je sais que je suis hyper tendu au travail, et du coup il y a cet équilibre à trouver, c'est vraiment cet équilibre à trouver. Donc effectivement, un équilibre entre la suppression des tensions sexuelles et un partage à la fois intellectuel et affectif qui finalement compose une relation que pour lesquels certains parleraient de couple. Moi, je ne parle pas forcément de couple, c'est une relation avec trois composantes fortes, quoi. Une composante affective, une composante intellectuelle et une composante sexuelle.
Super. Et un dernier petit truc, est-ce que tu peux décrire ici un petit peu l'ambiance qu'il y a dans la pièce là?
Du coup, j'ai pas forcément levé la tête. Là, il y a une vingtaine de personnes à peu près qui ont l'air d'être engagées dans des discussions. Je pense que ça échange, tout le monde échange un petit peu des bouts de vie. Et je pense que c'est pour ça que la soirée va être intéressante. Je suis extrêmement curieux, moi. J'aimerais être présent à chacune des discussions pour écouter ce que chacun a à dire. Parce que je suis sûr qu'il y a des vérités à choper, à attraper. Il y a des vérités à apprendre partout. Et il y a du vécu à... Pas apprendre, on prend jamais le vécu, mais moi je pense qu'à entendre le vécu des autres, quand on est dans des situations similaires, on est un tout petit peu mieux armé pour refaire les mêmes erreurs. On les refera. Hein. Je pense qu'il y a des erreurs qu'il faut faire, et même si les autres gens ont dit attention dans cette situation, ne fais pas cette erreur-là, on n'est pas capable d'identifier la situation. Donc on refait la même erreur, mais à l'avoir entendu une fois, ça permet de mieux récupérer derrière. Mieux récupérer. Et je pense que là, ce soir, ça va être. Ça peut être riche en expérience sur toutes ces discussions.
Bah écoute, je vais te laisser recréer ton tissu relationnel. Mais donc, tu viens de quelle région ?
Moi, je suis de Lyon.
Ah, voilà. Donc, tu es en arrivage sur Paris et tu prends plaisir à être ici, ouais. Aussi parce que peut-être il y a une ouverture de point de vue philosophique sur les relations.
Oui, oui, c'est ce que je cherchais. C'est ce que je cherchais en venant ici, d'avoir la capacité de discuter avec des gens qui n'avaient pas de point de vue fermé sur ce que pouvaient être des relations, ce qui est très bien. Oui, effectivement. Enfin, après, je connaissais deux personnes, enfin, que j'avais rencontrées par ailleurs. C'est rencontrer les gens, c'est toujours quelque chose qui me fait plaisir.
Allez, merci beaucoup, Thomas. Voilà. Thank you. Dutin. C'est toi que je rencontre ici, au pied de la tour Notre-Dame. Des tours Notre-Dame. Hein, donc ouais. Un petit endroit où il y a un peu de calme, un petit peu en dehors de la circulation. Et donc pour faire un peu suite à la belle rencontre hier, organisée par polyamour.info avec la diffusion du film La Grande Amoureuse, juste un petit mot peut-être sur le film.
J'ai beaucoup apprécié, c'est la première fois que je le voyais, et j'ai beaucoup apprécié de découvrir notamment Françoise Saint-Père grâce à ce film, parce que pour l'instant je l'avais juste lu son livre, son guide des amours pluriels. Mais j'avais pas encore eu l'occasion de voir ce documentaire La Grande Amoureuse. Donc une belle découverte.
Donc toi tu fais partie de ces personnes qui alimentent un peu le forum polyamour.info. Vous êtes quand même tout doucement une petite communauté là.
Oui, je crois qu'on est entre 50 et 200 à passer par le forum. Enfin, je crois qu'il y a au moins 50 inscrits, puis peut-être des gens qui sont juste visiteurs et qui s'expriment pas sur le forum. Et c'est vrai qu'on t'entends à droite à gauche en France, il y a certains d'entre nous qui ont envie d'organiser des rencontres, et du coup on met des petits posts pour dire voilà, à Paris, en Alsace, en Suisse, ça bouge, on aimerait faire une rencontre régionale dans tel coin, et ça m'arrive d'y participer effectivement.
Et donc toi le polyamour, on va dire les amours pluriels, le lutinage, enfin il y a une série de façons de nommer cela, c'est quelque chose que tu as découvert progressivement ou qui s'installe maintenant assez radicalement dans ta vie, ou c'est quelque chose qui est toujours en évolution?
Disons que c'était plus ou moins dans ma tête, mais je l'avais jamais formalisé et jamais mis un mot dessus. Ce qui fait que, contrairement à des personnes, que ça libère de pas avoir de mots pour nommer les relations amoureuses plurielles, moi j'avais besoin quand même de ça pour pouvoir me définir en tant que polyfriendly ou polyamoureux. Enfin, le fait de découvrir qu'il y a un mot en français et pas seulement en anglais pour parler de ça, ça m'a aidé en tout cas. Enfin, je sais que pour en parler autour de moi, à des amis et tout ça, ça va être de plus en plus facile par le bouquin, par ce mot. Et donc ça reste quelque chose d'assez nouveau pour moi. Enfin, c'est vraiment de cette année, quoi. Ça date de cette année, d'il y a quelques mois. Mais il y avait quand même quelque chose de fort en moi qui avait envie de ça, sans savoir... Enfin, j'avais pas envie de quelque chose de libertin uniquement sur le sexe. J'avais pas envie de quelque chose d'échangiste. J'avais pas envie de quelque chose de uniquement nocturne. J'avais envie que ce soit quelque chose de la vie de tous les jours, en fait, au quotidien. Dans les relations permanentes, et j'avais une frustration dans les mots, parce que la langue française a pratiquement rien entre amitié et amour, il n'y a rien en fait, alors que moi j'ai plein d'amis qui pourraient être des amoureuses, et plein d'amoureuses qui pourraient être juste des amis, les relations ça évolue tellement vite, et tellement, enfin on ne sait pas comment les choses évoluent avec la géographie, tout ça, donc...
Donc ça a été un soulagement pour toi au quotidien de te dire voilà, je m'inscris là-dedans parce que ça a l'air d'être quelque chose qui va soulager, qui va être plus transparent, qui va enrichir, c'est ça?
Oui, c'est ça, ouais. Il y a quelque chose de... C'est plus clair dans ma tête et c'est plus clair aussi pour les autres. Je trouve que de pouvoir nommer certaines choses... Je sais pas, enfin, si les Esquimaux ont un millier de mots ou je sais pas combien pour définir la neige, pourquoi nous, on a maximum 10 à 15 mots pour définir... Et encore, je sais même pas s'il y en a autant que ça pour définir... la relation entre un homme et une femme, ou entre deux femmes, ou entre deux hommes. Enfin, je trouve que c'est... Je crois qu'il y a encore beaucoup de néologismes et beaucoup de mots à inventer de ce point de vue-là, parce que si on n'a pas les mots, la réalité est difficile à... Enfin, moi, je travaille un peu dans le journalisme et tout ça, et je trouve que les mots sont hyper importants pour parler aux gens, surtout quand on n'est pas en face d'eux. Donc, c'est quand même pratique d'avoir des termes qui sont assez...
Donc en même temps ils peuvent amener un imaginaire et en même temps ils peuvent cadenasser aussi, c'est ça?
Bah, y a ce problème là, ouais. Donc disons que y a des moments où j'aurais besoin de prononcer le mot et d'autres moments où j'aurais plus besoin de parler de liberté, de relations libres, d'amour pluriel, des choses plus... Donc il y a différentes manières d'en parler, il y a différentes manières de faire son coming out auprès de certaines personnes. Et donc par exemple sur forum on a commencé à délirer ou à divaguer un peu là-dessus, à créer des idées de t-shirts, de choses comme ça. Et c'est vrai que parfois on aura besoin du mot, et parfois on va essayer plutôt avec un dessin, avec des personnes qui se tiennent la main, ou une citation un peu rigolote, du genre « Le petit ami de ma petite amie, ce n'est pas moi », des choses, des trucs comme ça qui sont... Donc du coup, on n'est pas obligé de faire passer ça par le verbal et par un mot. Parfois, ça sera quelque chose d'iconographique, une illustration, un poème... de l'humour, un extrait de chanson de PJ Harvey ou quelque chose comme ça. Et donc disons que moi, sur ma palette d'expression du polyamour, c'était bien que d'avoir en plus de ça un mot en français. et pas seulement le cœur avec le 8 de, à l'infini qui à l'horizontale, pas seulement. Ouais, donc.
Il faut réinventer la symbolique et en même temps, c'est des nouvelles relations qui demandent du dialogue aussi à l'intérieur. Des trouples, des couples. C'est un mot comme ça qui est apparu à un moment donné. Un couple, trouple.
Ah oui, trouble. Oui, mais le polyamour, ça ne veut pas forcément dire une relation à trois, en fait. C'est ça, il y a des...
Toi, par exemple, qu'est-ce que tu vis plus ou moins concrètement ou concrètement?
En ce moment, je suis plutôt polycélibataire, puisque je préfère pas sauter sur tout ce qui bouge, en fait. Un serial lover ou un... J'ai pas envie de ça, j'ai envie de construire les choses petit à petit, et du coup, j'ai plein d'amis, mais pas d'amoureuses officielles ou... Enfin, donc du coup, j'essaie d'en parler autour de moi, j'essaie de... Comme ça reste assez nouveau, je préfère essayer d'aller petit à petit. S'il y a des personnes qui s'intéressent d'en parler, je les invite à en parler spontanément dans une conversation. Enfin, chaque personne... Enfin, j'arrive à en parler avec chaque personne de façon assez différente, en fait. C'est vraiment du cas par cas, il n'y a pas... pour l'instant, j'arriverai même pas à faire un mail collectif là-dessus, parce que mes amis sont tellement différents et il y en a tellement... Je les connais pas suffisamment bien tous parmi les 100 ou plus, donc je sais pas comment certains pourraient le prendre. Donc du coup, c'est difficile de savoir exactement, enfin, comment les toucher par rapport à ça, comment leur en parler sans qu'ils aient l'impression qu'on cherche à les convaincre ou à les draguer ou à.
Ou c'est à des situations de relations que tu as vécues antérieurement où il y avait des débuts d'ouverture plurielle, ou c'est quelque chose en observant, en se disant tiens mais c'est un modèle qui a l'air pas mal pour moi dans l'avenir, je peux m'y inscrire.
C'est une réflexion au départ qui est née par rapport à une critique du côté trop romantique et du côté trop cadenassé de la société, le mariage, le côté mono en fait, monolithique, monogamie, monoculture, ouais, monothéisme, monoculture, enfin notre société est trop dans ça, et je commençais à lire des choses sur le féminisme, sur l'engagement, sur le fait que les femmes en ont marre d'être tout le temps... dominé par les hommes, même après 30 à 40 ans de lutte féministe. Et du coup, j'ai commencé à lire des choses là-dessus. J'étais tombé sur une brochure Contre l'amour, qui s'appelle Contre l'amour, que j'avais pas trop appréciée, parce que je la trouvais très moralisatrice et très, très culpabilisante, anti-couple à fond. Alors que dans le polyamour, il peut y avoir des couples, c'est pas forcément antinomique, enfin, c'est pas contradictoire. Ouais, et voilà, donc j'étais en recherche de quelque chose qui libère l'individu, en fait. Vu que je suis plutôt écolo-libertaire, j'avais envie aussi de quelque chose qui soit aussi dans ma façon relationnelle et amoureuse, plus libre justement. Que ce soit pas juste une liberté politique de critiquer l'État, nanana, et qu'arriver là, chez soi, ce soit la division, la lutte des classes ou la division des tâches, et ouais, la lutte des couples. Et puis, au quotidien, je me bats pour que des femmes acceptent de faire des boulots d'hommes, réparer des vélos dans un atelier, des choses comme ça. Enfin, en tant que professionnel, pas juste en tant qu'adhérente d'une association. Et pareil pour les hommes, quoi. Dès que je vois des hommes qui commencent à être cantonnés au barbecue, j'essaye de m'en mêler, de faire une petite blague, et d'essayer de mélanger ça pour que ce soit mixte. Pas forcément inversé, mais au moins mixte, parce que...
Oui, c'est là que ça se joue. Bon, moi, j'ai un fils de 15 ans. C'est ma femme et moi, on lui a appris à faire sa lessive. Ben, on est content, quoi. Même si maintenant, il a fait... Pas toujours à chaque coup, mais il l'a fait encore deux fois sur trois lui-même. Donc ça peut être là-dessus que ça se joue aussi.
Ouais, mais je trouve qu'il y a encore... Enfin, malgré les avancées qu'il y a actuellement, les congés de paternité, tout ça, je trouve que dans la relation homme-femme, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Aussi bien de notre part, nous hommes, que de la part des femmes, pour qu'elles arrêtent d'être parfois passives dans certaines situations, style des pistes de danse, des choses comme ça. Et je trouve que les relations amoureuses ou amicales ou autres, parce qu'il n'y a pas forcément que ces relations-là, ça peut être des relations humaines, tout simplement... complètement désintéressé, eh ben il y a encore du chemin à faire, je trouve, pour qu'on arrive à une égalité, enfin la fameuse égalité homme-femme ou entre deux personnes dont parle beaucoup François Saint-Père dans son guide, parce que je trouve que malgré tous les discours qu'on fait, on est encore trop dans la théorie et on conceptualise beaucoup de choses. Je pense que c'est un travers de l'universitaire qu'on nous apprend à conceptualiser tout et on est complètement... On devient des êtres un peu hors sol, enfin un peu comme les tomates, on n'a pas de goût, quoi. Quand on nous parle, on ne sait pas ce que c'est que la terre, on ne sait pas ce que c'est que d'où viennent certaines choses.
En imaginant que maintenant les ouvertures relationnelles amoureuses seraient quelque chose qui évoluerait vers un succès, donc beaucoup de gens s'inscriraient là-dedans. Dans une petite utopie comme ça, est-ce qu'on pourrait avoir envie d'imaginer que ça pourrait remettre en question même un peu le système politique ou en tout cas le système d'organisation de la société?
Ah oui, je pense que ça, au-delà de la simple relation amoureuse, je pense que le polyamour est une mini-bombe dans notre société, parce que ça remettrait en cause tellement de... Malgré tous les tests, les machins, il y aurait beaucoup de choses qu'on pourrait remettre en cause, l'héritage, les soi-disant... Je suis sûr que des gens pourraient tomber amoureux de personnes qui ne pensent pas du tout pareil politiquement qu'eux, et ils seraient bien, bien embêtés de voir qu'ils ont quand même une attirance pour cette personne-là. Mais au-delà de ça, ouais, je pense que la société actuelle, enfin capitaliste entre autres, a vraiment tout intérêt à ce que ça reste très cadenassé, que les gens soient frustrés avec une seule personne à la fois, ou qui divorcent mais avec des contrats. Moi, je trouve qu'il y a... Il y a un mélange des genres dans notre société qui fait qu'on a vraiment besoin d'éclater tous ces cadenas. Quand on voit que le mariage, au-delà du côté amour, ouvre des avantages fiscaux, je trouve qu'il y a un mélange des genres qui est inacceptable. Enfin, logiquement, il ne devrait pas y avoir de discrimination entre les gens mariés et non mariés. Enfin, tout le monde devrait avoir des impôts faibles et c'est tout. Il n'y a pas de raison pour que... Enfin, je trouve que c'est encore un truc qui encourage les gens à se marier, même s'ils seraient prêts à rester concubins ou colocataires ou quoi. Et beaucoup de gens qui se marient parce que quand t'es précaire dans notre société, avoir des impôts lourds, etc., et si tu peux avoir des avantages, des allocs, des machins, des... Je trouve qu'il y a trop de mélange par rapport à tout ça. Et...
Il y a quelqu'un qui est paxé, est-ce que c'est un peu avantageux par rapport à ça ou pas?
Je connais pas assez bien le pax. J'ai l'impression que c'est un peu plus libre le pax que le mariage, qu'il y a moins le côté traditionnel, etc., mais il y a... que ça ouvre des avantages sans discrimination entre les hétéros et les homos, donc ça c'est plutôt bien que ça soit créé le Pax, mais j'ai l'impression que je sais pas, qu'il faudra encore inventer des choses de ce point de vue là que le Pax c'est une avancée, mais qu'il faudra la dépasser tôt ou tard avec des unions libres encore différentes, favoriser des multicouples peut-être, des colocations, je sais pas, quelque chose qui soit en harmonie avec notre société, qui tend vers plus d'écologie, plus de liberté, plus de... en même temps plus de responsabilité, mais...
Est-ce qu'il n'y a pas non plus un devoir de mémoire, dont par exemple Michel Onfray parle de l'historiographie, donc refaire l'histoire de l'histoire, notamment dans la philosophie. Mm-hmm. Ici, on est au pied de Notre-Dame, qui est quand même un lourd héritage chrétien. Moi, je m'intéresse un petit peu aux Celtes, par exemple. Bon, j'ai lu des livres sur Jean Marcal, sur la femme celte, qui est un beau livre où quand tu feuillettes, tu comprends qu'il y a évidemment une autonomie de la femme qui avait réellement lieu à l'époque, qui pouvait divorcer, retrouver sa dotation après un an ou deux d'essai en couple, et que le couple était beaucoup moins sacralisé. C'était plus s'unir pour ensemble, réaliser un métier commun ou fonder un projet de famille. Mais alors, il y avait aussi, c'était beaucoup moins l'impérialisme, comme à l'époque les Romains étaient beaucoup plus là-dedans, mais les Celtes apparemment vivaient plus en petits groupes avec des petites unités assez autonomes. Il semblerait que tout ça on a un peu oublié, et c'est quand même notre histoire. Et donc moi je pose la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas un devoir de mémoire aussi, parce que le polyamour ça a l'air d'être un peu nouveau, et puis en creusant un peu, ou même à d'autres époques, en d'autres lieux, ça a été des essais, ça a été des tentatives qui ont quand même donné des bonnes choses aussi. Est-ce que tu es un peu courant de ça?
Je connais pas du tout l'histoire des Celtes. Mais c'est vrai que dans le passé, j'imagine tout à fait qu'avant qu'il y ait des États, qu'il y ait des choses très cadenassées justement par rapport à ça au niveau du droit législatif, au niveau du droit matrimonial, etc. Je pense qu'il y avait beaucoup plus de liberté, qu'il y a dû y avoir des sociétés, matriarcales, ou un peu comme dans les légendes, les fameuses Amazones qui étaient plus, dominantes et plus... que ce soit elles qui dirigent la vie, puisque c'est elles qui mettent au monde, donc logiquement... J'imagine qu'au début de l'humanité, l'homme n'a pas tout de suite dominé. Enfin, à partir du moment où on se rend compte que c'est la femme qui nous a tous mis au monde, que ce sont des femmes qui nous ont tous mis au monde, enfin, le fait que ce soit des hommes qui dirigent aussi bien le patronat, l'économie, le pouvoir et tout ça, ça semble complètement illogique. Enfin, on se dit un coup de rein, quelques spermatozoïdes, et ils se permettent de dominer le monde. Enfin, je trouve qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts, les hommes, par rapport à la planète actuelle. Donc je trouve que ça ne m'étonnerait pas du tout que si on remonte dans l'histoire, effectivement, depuis même l'aube de l'humanité, on arrive à trouver à toute époque des périodes qu'eux, ils appelaient libertines ou autres, mais qui étaient très libérées par rapport à ça. Et, enfin, je pense que ça a dû exister à toutes les époques. mais il devait y avoir une censure au niveau de la littérature, au niveau de la publication des écrits, les livres ne pouvaient pas circuler librement. Et ouais, je pense que historiquement, il y aurait de belles choses à trouver du côté de la préhistoire, même de l'Antiquité. De ce côté-là.
Et puis le refus du corps, que ce soit Saint Augustin là, qui a fait beaucoup de tort au niveau catholique, c'est aussi donc attaquer le corps, ça veut dire enfermer les gens dans une culpabilité, ça veut dire qu'en même temps, après, tu n'as plus de difficultés puisqu'ils se sentent coupables de tout, de les diriger, de les manipuler. Et donc c'est clair, pour moi, le polyamour s'inscrit dans autre chose qui est un petit peu de l'ordre de l'audace peut-être, mais qui en fin de compte serait un peu naturel et permettrait simplement de retrouver, si je retrouve une liberté de corps, je peux peut-être aller doucement vers une liberté d'esprit.
Oui, tout à fait. Par exemple, hier, il y avait une fille à la soirée, après la projection du film, qui disait qu'elle ne mettait pas de mots derrière le polyamour, qu'elle pratiquait ça sans avoir su qu'il y avait ce mot-là, et que c'est les étiquettes qui nous cadenassaient, qui nous verrouillaient dans la manière de voir les choses, et que si on enlève les étiquettes, ben les gens vont le dire, tiens, lui c'est un touriste, lui c'est un policier, lui c'est un ceci, lui c'est cela. Si on casse tout ça et qu'on leur parle comme à tout le monde, comme à notre frère, comme à notre sœur, comme à notre ami, les gens vont être un peu déboussolés au début, mais nous ça va nous faire du bien, et eux aussi ça va leur faire du bien, parce qu'ils vont pas comprendre pourquoi on les déteste pas, ou pourquoi on n'a pas peur d'eux, ou pourquoi on leur parle de façon aussi libre. Et c'est vrai que je pense que la plus grande liberté serait d'arriver, c'est pas forcément facile du jour au lendemain, mais petit à petit d'arriver à se libérer des étiquettes et aller voir des gens ou à parler avec des gens avec lesquels jusqu'à présent on n'a pas l'habitude de parler, genre en première classe dans le TGV, ou à des policiers, ou à des élus, ou à des femmes d'un certain âge, ou à des enfants, ou je sais pas, enfin essayer d'aller au-devant des gens pour enfin voilà, on n'a qu'une vie, et je trouve que ce serait dommage de la gâcher en se limitant à 20 ou 100 personnes autour de nous, alors qu'il y a encore beaucoup de gens sur lesquels on n'arrive pas à s'ouvrir, pas uniquement pour des raisons sentimentales ou amoureuses, mais vers lesquelles on pourrait aller discuter, parce qu'on a ce blocage des étiquettes de se dire « Ah, lui, il est comme ci, lui, il est comme ça, lui, il est riche, lui, il est bourgeois, lui, fin. » Et je trouve que l'un des mérites du polyamour, c'est de dire potentiellement « Vous pouvez aimer tout le monde, quoi. » On est polyamoureux et je dirais même bisexuel, biologiquement dès notre naissance. Après, il y a des choix qui s'opèrent consciemment ou inconsciemment. Et je pense que c'est l'un des avantages de redécouvrir qu'on est potentiellement dans notre corps et notre tête bi et polyamoureux, parce que voilà, ce serait difficile d'aimer qu'une seule personne. Ça ouvre des perspectives sentimentales et affectives qui sont vraiment infinies, je pense. Moi, ça me...
Alors, si on était plus dans la métaphore comme ça, et si le polyamour était une princesse berbère, comment serait-elle amoureuse? Comment serait-elle habillée?
Une princesse berbère, comment serait-elle habillée? Bonne question. Elle serait dans le désert? Une princesse berbère. On m'avait jamais posé cette question, alors ça. Je pense des couleurs assez chaudes. Assez douce et chaude, du jaune, un jaune doux, des oranges ou peut-être du rouge parfois aussi, quelque chose comme ça, des couleurs assez chaudes et qui réveillent un peu, qui ont des fonctions chromothérapiques qui font du bien aux yeux et qui réveillent les sens. Et en tout cas pas du noir ou du gris, des couleurs qui sont pas vraiment des couleurs, le gris c'est du béton, c'est pas vraiment une couleur, c'est plus une matière, et le noir c'est quand on mélange toutes les couleurs ça fait du noir, quoi. Du coup, il faudrait mieux que ce soit des couleurs, à mon avis, assez, assez chaleureuses qui ouvrent les yeux, en fait. Et des vêtements assez libres, pas forcément une espèce de tunique actuelle, ou religieuse ou pas, ça peut être des burkas ou des choses non religieuses, mais pas les vêtements actuels qui sont très... Comment dire je sais pas, on a l'impression que ça enferme le corps, parfois, les vêtements actuels. Si jamais c'est les vêtements, j'imagine bien cette princesse avec un pantalon taille ou des choses assez larges. Puis les hommes aussi, idéalement, ce serait bien que les hommes aussi arrêtent de croire que le pantalon c'est que fait pour eux et qu'ils peuvent rien porter d'autre.
Les musiques qui illustrent cette entrevue sont Sieste Ocho du groupe Suerte pour le générique début et fin,
Anacrusme et Funky Joyce du groupe Jazz Fixie.
Ces groupes sont disponibles en téléchargement libre sur jamendo.com sous licence Creative Commons 2.5. Sur le site de polyamour.be, vous trouverez toutes les précieuses informations relatives aux amours pluriels, comme la possibilité de réécouter toutes les émissions Polyplaisir des Utopies en téléchargement ou en écoute sur un lecteur intégré à la page de l'émission. Inscrivez-vous aussi au forum pour connaître les détails des rencontres Polycafé qui ont lieu chaque premier mercredi soir du mois à la Maison Arc-en-Ciel, rue du Marché au Charbon, 42 à 1000 Bruxelles. C'est un bar associatif à deux pas de la Grand Place. Vous y venez de plus en plus nombreux, l'ambiance y est chaleureuse. C'est un endroit ouvert à tous, que vous soyez dans une relation polyamoureuse ou non, vous êtes les bienvenus. Je vous rappelle également les dates de diffusion sur Radio Campus, le deuxième mercredi du mois à 21h30, et en rediffusion le quatrième jeudi du mois à 16h sur 92.1 MHz à Bruxelles. Cette émission est produite sous licence Creative Commons 2.5. Polyplaisir des Utopies, c'est aussi la joie d'émettre sur cette radio intelligente et curieuse qu'est Radio Campus. Je salue au passage Nathalie, Kika, Déborah, Nicolas Frédux, ainsi que toutes les personnes nombreuses et dévouées qui donnent de leur temps afin de construire du contenu de qualité. Je vous retrouve le temps d'une traversée dans quelques semaines sur l'autre rive, celle des imaginaires collectifs, celle des polyplaisirs des utopies.